wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Musique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion, ainsi que Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jean-Frédéric, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Lucille Como, Emmanuel Giuliani et Emmanuel Dupuis pour parler ensemble de l'élixir d'amour de Gaetano Donizetti, dirigé par Giacomo Sagripanti, mise en scène par Laurent Pelli. Ça jusqu'au 25 novembre à l'Opéra Bastille. Un double programme en DVD, Yolanta, Casse-Noisette, Tchaïkovski, et dirigé par Alain Antinoglou, mise en scène Dmitri Tchernyakov et trois chorégraphes. On en parlera tout à l'heure. C'est une sortie en DVD chez Bel Air Classique. Destination Rachmaninov, concerto pour piano 2 et 4. C'est un disque que vient de graver Daniel Trifonov chez Deutsche Grammophon. Emmanuel Giuliani nous dira pourquoi son cœur bat pour Mélancolia, un disque décrit par Rich et Harmonia Mundi, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des exemplaires de papier, la revue de France Culture, c'est le numéro 26, les révolutions de l'intelligence, édité par les éditions Radio France et Exil. Et nous ouvrons cette dispute avec l'élixir d'amour, un opéra qui est un mélodrama giocoso en deux actes de Gaetano Donizetti sur un livre en italien de Felice Romani qui a été créé à Milan en 1832. L'action se déroule dans un village. On y retrouve des personnages traditionnels de la commedia dell'arte italienne. Je vous laisserai le soin de résumer l'intrigue. Cette production, mise en scène par Laurent Pelli, créée en 2006, reprise en 2015, est à ce moment à l'affiche de l'Opéra Bastille, sous la direction de Giacomo Sagripanti. On en écoute un extrait.
Thank you.
Voilà pour cet extrait de l'élixir d'amour. C'est même la cinquième reprise en fait de cette production. On a eu à peu près autant d'Adina, me semble-t-il, Emmanuel Giuliani.
Oui, sans doute, mais celle-ci.
Alors, celle-ci, puisqu'on vient de l'entendre, on commence par elle. On en a déjà parlé il y a peu de temps.
Oui, mais c'est la star de cette rentrée à l'Opéra Bastille, parce que déjà, on l'a entendu. Lisette Oropesa, cette jeune. Entre 30 et 35 ans, je crois, à peu près, soprano américaine, qui a déjà une très belle carrière au Metropolitan Opera. Les gens qui suivent ou à New York ou les retransmissions du Met au cinéma ont déjà eu l'occasion de l'admirer à tout point de vue, parce qu'en plus, elle est charmante, elle est très jolie actrice, très naturelle. On sent le plaisir qu'elle a, en plus, à chanter, à incarner tous les rôles qu'elle joue. C'est aussi une très bonne danseuse parce qu'elle faisait partie de ces Anne Galante munichoises mises en scène par Sidi Larbi-Cherkaoui où elle était vraiment, elle avait un rôle tout à fait important, elle y était formidable. Et là, donc, Paris la redécouvre elle vient d'interpréter Marguerite de Valois superbement dans la production des Huguenots, et à peine le temps de dire ouf, elle revêtait les robes à fleurs d'Adina pour cet élixir d'amour, où aux côtés de Vittorio Grigolo, on en parlera aussi, ils forment tous les deux un couple absolument fondant, craquant, qui chante aussi bien qu'il joue, et on entend à la fois ce naturel, cette technique, cette voix totalement unie sur l'ensemble de la tessiture. C'est vraiment une Adina absolument merveilleuse.
Un petit tour quand même de table sur elle, Emmanuel Dupuis.
Oui, c'est une authentique.
C'est une prise de rôle en plus.
C'est une prise de rôle.
Elle l'a pas fait à Pesaro cet été, je crois.
Non, j'ai lu que c'était une prise de rôle.
Ah d'accord, j'ai cru qu'elle l'avait fait à Pesaro.
Bon, en tout cas, c'est indéniablement une authentique belle cantiste, ce qui est rare aujourd'hui, parce que elle a vraiment une culture du chant qui remonte à la tradition du bel canto du 19e siècle. C'est-à-dire avec à la fois énormément d'agilité et une capacité à nuancer, mais à nuancer pas simplement à l'intérieur de la phrase, mais à nuancer chaque note. Sur chaque note, on entend des inflexions qui varient, des couleurs qui varient. Et ça, c'est la marque d'une très grande belle cantiste. Et en plus, comme l'a dit Emmanuel, elle a une présence en scène absolument charmante. C'est une très bonne comédienne. Donc, je pense qu'elle est partie pour faire une carrière, j'espère longue, mais en tout cas qui sera remarquée.
Lucille Como.
Oui, en fait, ce qui frappe, c'est son agilité, en effet, à la fois dans la voix et qui correspond parfaitement scéniquement à une agilité du corps et de la manière de prendre en charge le personnage. Donc, c'est assez rare. Moi, je suis moins, mais on en parlera peut-être après, moins convaincue justement par son partenaire de
Alors,
scène.
Allons-y.
Voilà, qui s'appelle Vittorio Grigolo, qui, à mon avis, est aussi capable de beaucoup, beaucoup de nuances dans la palette, mais de manière un petit peu plus grossière parfois. J'ai trouvé sa voix très, très riche, parfois presque à la limite du trop-plein dans le timbre. Et je trouve que face à elle, qui est tellement dans la subtilité, il a quelque chose d'un peu balourd. Après, c'est aussi le personnage.
C'est aussi le personnage.
Bien sûr, c'est aussi le personnage. Mais il y a des moments du personnage de Nemorino, parce que donc Nemorino aime Adina. Adina, elle,
Merci,
veut
Lucie,
rester
là.
Libre dans la vie et chante l'inconstance comme règle de vie absolue. En plus, elle est courtisée par un militaire qui passe par là. Nemorino est désespéré. Il rencontre un médecin, une espèce de bonimenteur génial, qui lui vend soi-disant l'élixir d'amour, une manière de faire tomber amoureuses toutes les filles. Et en l'occurrence, c'est du vin. Donc en fait, l'élixir d'amour, c'est comme une vaste chanson à boire avec plein de gags à l'intérieur. Mais il y a aussi des airs comme celui qu'on vient d'entendre, et aussi côté ténor, des airs où affleure la mélancolie, où affleure des choses plus graves. Et je trouve que dans ce type de répertoire-là, Vittorio Grigolo est moins dans la subtilité qu'elle. Et que du coup, il y a un petit déséquilibre, à mon avis, entre les deux voix. Mais bon, ils sont formidables tous les deux.
Hein.
Ils jouent bien ensemble, donc c'est agréable à voir.
Que le chant de Vittorio Grigolo soit moins subtil que celui de Lisette Oropesa, ça oui, c'est évident. Mais ceci étant, bon, malgré tout, il est quand même assez irrésistible. Parce que d'abord, il a une présence scénique qui casse la baraque, tout simplement. Et puis, il a quand même cette chose qui est absolument magique, c'est dès qu'il ouvre la voix, c'est cette couleur latine. Voilà, dès qu'il ouvre la voix, c'est le grand soleil d'Italie se lève sur la scène de l'Opéra Bastille.
C'est presque un peu trop, en fait.
C'est un ténor italien, voilà. Mais ça fait plaisir.
Disons, dans cette production, en tout cas, Emmanuel Giuliani, ça correspond quand même.
Oui, ça correspond. Et d'ailleurs, il ouvre les mains un peu comme deux petits soleils. Hein. C'est un de ses...
Ah, ils sont sous le charme. Vous avez bronzé, l'Opéra, j'ai l'impression.
Alors, c'est vrai. Alors, à la fois, Vittorio Grigolo rigolo si on se souvient, par exemple, dans Lucia à la Bastille, il y a quelque temps, où il était tellement grisé de sa voix et de la beauté de sa voix, il tonitruait, etc. Il s'est beaucoup quand même assagi. Et il trouve des... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Lucie, je trouve qu'il trouve des subtilités, notamment quand il lance ce très bel ensemble tout à fait verdien à la fin de l'acte 1. Et vraiment, là, tout à coup, il change de couleur, de caractère. Et c'est vraiment splendide. Donc, à l'intérieur, en effet... cette palette peut-être plus rutilante, voire un peu clinquante par moments, et c'est vrai que dans son jeu d'acteur, il cabotine beaucoup, mais il le fait là aussi avec un tel bonheur que, bon, on a un peu envie de le prendre dans ses bras, il faut bien dire ce qui est.
Carrément.
Voilà. Comme j'étais au premier rang, je me suis retenue pour ne pas... moi, je me serais écroulée dans la fosse si j'avais essayé de sauter. Donc
ça aurait on été, voilà, être mis en scène par Prévis.
C'est vraiment, vraiment très drôle. Voilà. N'hésitez pas à le faire la prochaine fois.
Je vais m'entraîner. Avec Lisette Oropesa, qui est marathonienne, alors elle doit être
peut-être
une
perche, vous voyez, oui, la perche pas sous la fosse.
Mais voilà, il y a un côté, oui, c'est ça, mordre dans la musique qui est assez irrésistible.
Lucile, comment vous vouliez ajouter?
Oui, en fait,
tout
va très bien. Puis on peut pas, du coup, parler peut-être de la mise en scène. Tout est très rodé, de la même manière que les voix correspondent parfaitement, que tout le monde est très à son aise, je trouve, sur la scène. Le chœur, bon, on parlera
aussi
de l'orchestre.
C'est le talent de mettre les gens à
l'aise.
Bien
sûr, moi, il me manque justement peut-être des aspérités, y compris dans la mise en scène et dans le jeu. Je pense que, enfin, j'avais envie de voir peut-être autre chose qu'une lecture somme toute assez littérale qui est dans la jouissance totale, le gag, le burlesque, en effet la comédia dell'arte de cette pièce de Donizetti. J'avoue que pour moi, dans la musique, il y a des moments qui justifieraient qu'on sorte un peu de ce régime-là. Or, on est toujours sur le même régime,
c'est pas
à mon avis.
Choisie par Laurent
voilà,
Pelli.
Très très drôle. Clairement. Voilà, pour décrire un peu la mise en scène, quand le rideau s'ouvre sur la scène, il y a un grand échafaudage, une forme de pyramide en fait de bottes de foin. Donc, on est franchement à la campagne avec une lumière qui est en effet éblouissante, la lumière de l'Italie.
Couché dans le foin avec le soleil pour témoin.
Exactement. Et un téléphone portable dans la main pour la
et des lunettes
touche moderne. Voilà. Et tout le monde est habillé un peu comme dans un film italien des années fin des années 50, début des années 60. C'est d'ailleurs ce dont parle Pelli pour justifier ses choix. Les décors sont magnifiques, mais on reste vraiment dans quelque chose de très solaire, de très gai, avec des petits gags. Alors il y a un chien qui passe, il y a un personnage qui ressort des toilettes du restaurant avec du papier toilette collé à sa semelle. Tout ça sont plein de petits signes qui vont un petit peu tout le temps vers la même chose, vers la même interprétation. On passe un moment, vraiment, c'est très réussi. Tout le monde se marre à fond dans l'Opéra Bastille. Pour moi, ça manque de quelque chose d'autre, peut-être quelque chose d'autre à dire sur ce texte et sur cette musique-là.
Emmanuel Giuliani.
Peut-être, oui, d'une once de tendresse et d'interrogation, c'est vrai. Mais aussi, question tendresse, c'est quand même bien supérieur au Don Pasquale et du même Donizetti, qui est aussi une partition merveilleuse. Je veux dire, vraiment, les ouvrages comiques de Donizetti sont des purs chefs-d'œuvre. C'est vrai, il faut dire, l'Élixir d'amour, c'est une partition, mais c'est parfait. Toutes les scènes durent exactement le temps qu'il faut. Les ensembles sont des pures merveilles. Les airs également, l'orchestration. On a vu là ces pizzes de cordes dans l'air d'Adina qu'on vient d'entendre. Immédiatement, ça crée un climat de charme absolu. Et c'est vrai que peut-être, même si elle est en effet très bien réglée et très bien rodée vu le nombre de reprises qu'elle a eues, la mise en scène de Laurent Pelli aurait peut-être gagné à pousser encore un petit peu plus loin la tendresse et la poésie. Mais c'est quand même très réussi. Et la direction de Giacomo Sagripanti joue aussi.
Le regard d'Emmanuel Dupuis sur cette mise en scène. On va parler du chef ensuite.
Oui, disons que c'est effectivement un spectacle sans prétention. Mais enfin, il faut quand même préciser que le livret est lui-même...
Du grand divertissement.
Et lui-même sans prétention. Donc voilà, il y a quand même une certaine cohérence dans tout ça. Après, la référence au cinéma italien. Alors bon, il faut dire effectivement que cette production date de 2006.
Depuis, on en a vu beaucoup.
À Paris, en tout cas.
Voilà,
mais pas seulement à Paris. C'est un peu devenu un lieu commun dans le répertoire italien d'ajouter des références.
De mettre
aussi,
des Vespa.
Donc, ça a un côté un petit peu réchauffé. Et surtout, bon, moi, je trouve que là, effectivement, où ça manque peut-être d'aspérité, c'est sur l'aspect social des choses. Parce qu'en fait, si l'histoire d'amour entre Adina et Nemorino est contrariée au début, c'est parce qu'il y a une grande grande différence sociale entre eux. C'est-à-dire, elle est une riche propriétaire et lui est un pauvre paysan. Or, cette différence sociale, on ne l'aperçoit pas du tout.
Elle n'est pas traitée, là.
Mais voilà, parce qu'elle, elle arrive sur scène avec son fichu et ses bottes en caoutchouc, donc, comme tout le monde.
Ils ont l'air égaux.
Ils ont l'air égaux. Donc, et je pense que là, il y avait quand même, Laurent Pellis s'est privé d'un ressort important de l'intrigue. Mais ceci étant, bon voilà, c'est un spectacle qui est vraiment très rondement mené, toujours qui respire avec la musique. Les décors, comme on l'a dit, sont magnifiques. Il y a une très très bonne utilisation du grand plateau de Bastille, notamment avec cette pyramide de bottes de foin qui permet une utilisation de l'espace vertical, horizontal, dans tous les sens. Enfin, c'est très bien fichu, quoi, tout simplement. Et bon, moi, on peut parler aussi de la réaction du public de temps en temps.
Et autour de moi,
autour de moi, j'ai vu à la fin du spectacle des gens ravis de leur soirée. Donc bon, que demander de plus ?
Lucille Gomeau demande quelque chose de plus.
On peut demander parfois d'être un peu dérangé ou bousculé, mais en l'occurrence, vous l'avez dit, le ressort social, il est d'ailleurs très étonnamment complètement escamoté, alors même que dans le livret, à un moment donné au début, Adina dit au cœur des moissonneurs, allez, remettez-vous au travail. Ça paraît assez incongru du coup dans la mise en scène Laurent Pelli. Et de la même manière, vous parliez de l'aspect poétique de la partition, le fameux air Una furtiva lagrima, pour moi, il apparaît aussi un peu comme incongru parce qu'on fait tellement de ce pauvre Némorino un imbécile que tous ces airs où affleure quelque chose d'un peu grave quand même dans son malheur, dans son amour déçu, paraissent un petit peu plaqués. Et le décor d'ailleurs ne trouve qu'une solution qui est jolie mais qui n'est pas très convaincante, que de faire baisser un peu la lumière et de faire tomber choir du plafond des petites lampes qui figurent un ciel étoilé. Je trouve que c'est assez pauvre comme interprétation de ce type de moments qui pourraient être des moments de tension, de profondeur, de mise en profondeur d'un personnage. Moi, ça m'a manqué un petit peu.
Bon, allez, quelques mots rapidement sur le chef, sur Giacomo Sagripanti, Emmanuel Dupuis.
Oui, moi, je trouvais ça plutôt bien dirigé. Bon, il pourrait peut-être y avoir un peu plus de contraste entre les passages élégiaques et les passages vraiment bouffes. Mais bon, on a tous assisté, je crois, à la première représentation. Donc, ça a besoin de se roder. Mais pour une première, déjà, ça fonctionnait très bien.
Lucille Gomeau.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord que ça manque, mais de la même manière, à mon avis, que la mise en scène, un peu de contraste entre certains moments.
Mais c'est très dynamique.
Oui, moi j'ai plutôt été convaincue, c'est dirigé avec une verve qui correspond à ce qui se passe sur le plateau, et l'orchestre joue très très bien, alors que bon, l'orchestre de l'opéra est excellent, mais parfois justement dans ce type de répertoire, il ressent peut-être un peu l'idée qu'il joue les utilités et qu'on soignera pas ça aussi bien, ça avait été le cas de Don Pasquale, et là c'est pas du tout le cas, et tous les solos, notamment des vents, mais aussi les cordes qu'on vient d'entendre, c'est vraiment fait avec beaucoup de soin. Soulignons l'excellence du chœur, et notamment, et on l'avait remarqué aussi dans les Huguenots, les voix féminines du chœur de l'Opéra de Paris étaient un peu problématiques, un peu vibrées, ils sortaient un peu des... Je ne sais pas s'il y a eu un renouvellement, s'il y a les fruits d'un travail, etc. Mais là, il y a un chœur féminin à un moment, c'est de la dentelle. Donc vraiment, ça mérite d'être souligné, parce que ça atteint enfin le niveau qu'on attend sur ce type de scène.
Tout le monde opine dans ce studio. L'élixir d'amour de Gaetano Donizetti, dirigé par Giacomo Sagripanti. Mise en scène Laurent Pelli, c'est à voir jusqu'au 25 novembre à l'Opéra Bastille à Paris. À suivre dans la dispute Opéra de Paris encore, mais en DVD avec Yolanta Casse-Noisette. Il y aura un CD ensuite, celui de Daniil Trifonov avec un concerto pour piano 2 et 4 de Rachmaninov. Et puis un coup de cœur d'Emmanuel Giuliani pour Mélancolia, le dernier disque en date des Cris de Paris.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute avec un programme de l'Opéra de Paris dont nous avions parlé lorsqu'il était à l'affiche, qui a la bonne idée d'être aujourd'hui disponible en DVD et Blu-ray chez Bel Air Classique. Il s'agit de Yolanta et Casse-Noisette, soit un opéra et un ballet de Tchaïkovski créé au cours d'une même soirée de décembre 1892, mais qui n'avait jamais été repris ensemble. Le metteur en scène russe Dmitri Tcherniakov, à qui l'Opéra de Paris avait proposé de monter une production de Yolanta, qui est un opéra en un acte fort court, donc on cherche toujours comment compléter la soirée. Il a été fouillé dans les archives Tchaïkovski. Il s'est dit finalement que ce ballet Casse-Noisette était sans doute la meilleure œuvre possible. Il en a confié la chorégraphie à trois chorégraphes, Arthur Pita, Edouard Locke et Sidi Larbi Cherkaoui. Sonia Yoncheva interprète Yolanta et l'orchestre est dirigé par Alain Altinoglu. Voilà pour cet extrait. Alors c'est étrange, une question un peu, très très naïve à vous poser. À l'écoute, j'ai l'impression que c'est moins bien que quand je l'ai vu. Emmanuel Giuliani, tiens.
Oui, d'abord parce qu'il y a un petit problème de déséquilibre entre les timbres, la beauté du chant et les limites atteintes par le ténor par rapport à Sonia Ionsheva. Alors c'est vrai que quand on voit, comme c'est une mise en scène, on va en parler, où il se passe énormément de choses et où le spectateur est tout le temps sollicitée. Évidemment, l'équilibre visuel et auditif est différent. Et quand on ne fait qu'entendre, ça souffre un peu.
Mais c'est une sortie en DVD. Donc
c'est une sortie en DVD.
Bien, donc c'est dont on va parler même, pardon, finissez votre phrase.
Même si, moi, par rapport à mes souvenirs, le fait de le voir en DVD a rééquilibré les grandes disparités vocales de Yolanta.
Alors, celle qu'il a découvert en DVD, c'est Lucille Comeau. Donc, comme c'est du DVD qu'on parle ce soir, c'est peut-être bien que ce soit vous qui commenciez, Lucille. Yolanta Casse-Noisette.
Oui, alors quand on le voit en DVD, on a du mal à imaginer la soirée que ça peut constituer, parce que déjà c'est très long, que ce sont deux ouvrages qui sont quand même très différents, même si à mon avis la mise en scène réussit très bien à les lier. Donc ce qui est assez étonnant d'abord, peut-être pour décrire les premières images, c'est qu'on a l'impression que c'est tout petit, parce qu'en fait la scène de l'opéra n'est occupée que partiellement, par une sorte de boîte, et quand le rideau s'ouvre, on voit surtout un sapin de Noël dans un immense... dans un tout petit salon. Donc on se dit, quelque chose de festif. Moi, ça correspond totalement à l'idée que j'ai de Casse-Noisette. Donc bon, voilà. Sauf que très vite, on se rend compte que ça ressemble quand même un peu à une prison ou un peu à une chambre mortuaire avec des nappes blanches, des fauteuils blancs qu'on ne cesse de recouvrir. Et puis, les premiers personnages qu'on voit apparaître... il y a un prologue où Sonia Yontcheva est seule et elle sursaute. C'est assez effrayant, même. Et la mise en scène tient en permanence annonce ce jeu entre, qui est assez simple pour Casse-Noisette et pour cette pièce, mais entre l'enfance et une forme de morbidité qui vient toujours travailler le spectateur de manière assez insidieuse et qui tend, moi qui m'a beaucoup tendu. Donc pour peut-être commencer par Yolanta, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit recluse, elle est aveugle, elle ne sait pas qu'elle l'est, enfin elle pressent que quelque chose lui manque mais elle ne sait pas, et elle ne sait pas non plus quelle est la fille du roi, à qui, et elle est promise à un jeune homme qu'elle n'a jamais rencontré, et il se trouve que ce jeune homme arrive le jour dit avec un compagnon, et c'est de ce compagnon là qu'elle va tomber amoureuse, ce qui tombe plutôt bien parce que l'autre en fait il est déjà pris. Voilà, donc c'est
un protocole mis en place par le roi pour qu'elle ne sache pas qu'elle est aveugle.
Rien, voilà. C'est quand même une petite pièce qui est extrêmement courte, qui est extrêmement tendue, qui est magnifique. Moi, je la connaissais pas. Même le livret est magnifique. C'est ce qui, ça, là où, à mon avis, Tcherniakov a vraiment bien joué dans la mise en scène, c'est que c'est une petite pièce qui est pleine de petits airs, de chansons, beaucoup. Ce qu'on entendait là, il y a une berceuse, il y a une chanson à la gloire de Mathilde, donc l'autre jeune femme aimée, qui ressemble vraiment à des airs presque de folklore. Et en même temps, dans la complexité musicale de Tchaïkovski, on est toujours dans un équilibre, à mon avis, parfait au niveau de la mise en scène, mais on parlera aussi de la musique, entre quelque chose de simple, de donner simplement, à écouter simplement, et autre chose qui est beaucoup plus difficile à entendre et beaucoup plus malaisant.
Alors, on reste sur Yolanta pour l'instant, bien sûr, Emmanuel Dupuis.
Oui, enfin, c'est quand même difficile de dissocier les deux, parce que justement, la grande... Le coup de génie, je dirais, de Tcherniakov.
Qui n'en est pas à son premier.
Voilà, qui n'en est pas à son premier. C'est justement d'avoir réussi à créer un tout organique et cohérent entre ces deux ouvrages.
Mais on croit que c'est un seul ouvrage.
Voilà. Quasiment. Alors que c'est des ouvrages qui n'ont rien à voir. Ni l'argument, ni le genre, ni. La seule chose en commun, c'est la musique de Tchaïkovski. Oui. C'est tout. Donc, mais lui, il arrive, alors en réécrivant totalement l'argument du ballet, mais par contre, en étant extrêmement fidèle au texte dans Yolanta, il arrive à créer. Quelque chose de totalement cohérent. En fait, Tcherniakov nous raconte l'histoire de Marie. Marie, c'est l'héroïne du ballet qui va assister pour son anniversaire à une représentation de Yolanta. Bon, et donc l'opéra se déroule. Alors après, bon, évidemment, il y a quand même des parallèles entre le ballet et l'opéra, puisque ce sont deux parcours initiatiques d'une certaine manière que vivent d'une part Yolanta et d'autre part Marie, l'héroïne du ballet. Et effectivement, bon, comme l'a dit Lucille, tout se passe dans ce petit salon bourgeois où les réactions émotionnelles des personnages sont extrêmement exacerbées, et ça, la captation en rend compte encore mieux que quand on est dans la salle. Et puis à la fin de Yolanta, il y a cet effet, enfin, il y a beaucoup d'effets théâtraux absolument sidérants dans cette mise en scène, mais notamment à la fin de Yolanta, il y a un effet de fondu enchaîné qui est extrêmement réussi, c'est même très virtuose, c'est-à-dire que le salon, le décor de Yolanta recule tout au fond du plateau, et il s'enchasse dans un autre salon beaucoup plus grand qui va devenir le décor du ballet. Enfin, et là, on assiste donc à la fête d'anniversaire de Marie qui au début se déroule dans la joie et la bonne humeur, mais ça va vite mal tourner et même là, toute la maison va s'effondrer. Alors là aussi, encore une image choc dont Tchernakov a le secret.
Alors moi, par exemple, n'ayant pas vu la production sur scène, je n'ai pas compris comment c'était possible de faire ça. C'est la magie. Quoi.
Voilà.
Mais sur scène, c'était assez
magique.
Je ne comprends pas ce qui se passe. Ouais.
Donc voilà. Et puis à partir de là, Marie va vivre comme Alice au Pays des Merveilles, de cette manière, une espèce de voyage de songe initiatique. Elle va traverser des épreuves terribles. Elle va se retrouver à un moment dans une forêt très très inquiétante. Enfin, tout ça donne lieu à une succession d'images absolument magnifique. Et puis voilà, au terme de son voyage initiatique, elle sortira transformée. Et puis nous aussi, on est transformés parce que vraiment, c'est d'une virtuosité théâtrale absolument sidérante.
Ouais, ça fait partie des très grandes soirées, en tout cas dans mon souvenir. Et Emmanuel Giuliani, maintenant qu'on a bien parlé de cette soirée.
Alors, j'ai beaucoup plus apprécié le spectacle en le revoyant sur DVD que je ne l'avais eu sur place à l'Opéra Garnier. Non pas à cause du dispositif, ce que vient très bien de décrire Emmanuel, parce que c'est vrai que cette absence de solution de continuité entre les deux, puisque Yolanta devient un élément de cette fête d'anniversaire, il y a cette dilatation en effet du décor qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment grisante, qui fait battre le cœur plus vite. Puis cet effet de catastrophe où la maison explose, tout tombe. Il n'y a guère que la chute des livres dans De la maison des morts par Chéreau, qui recrée de manière différente, mais qui recrée cette impression de chaos. Comment une scène d'opéra bien policée avec des spectateurs chacun assis sur leur fauteuil peut vivre une impression de scène de guerre. Et vraiment, on revit cette chose-là. Alors évidemment, là sur le DVD, c'est un petit peu moins impressionnant. En revanche, quand on découvrait le spectacle sur scène, il me semble que cette cohérence apparaissait donc au moment de cette grande dilatation. Et moi, j'avais un peu souffert de cette petite boîte fermée pour Yolanta, d'autant plus que Yolanta est un opéra de plein air, où elle ne cesse d'évoquer la nature, l'air, la lumière, les oiseaux. Et il fallait quand même un peu se dire, bon allez, d'accord, ne faisons pas bien attention au livret, c'est la psychologie des personnages qui compte. On est très confiné dans cette atmosphère alors qu'on ne cesse d'évoquer l'air libre. Là, on ne le ressent plus du tout. C'est très bien fait et sans doute c'est ce que vous dites, Emmanuel, parce que chaque clignement de paupières, chaque sourire, qu'il soit naturel ou crispé, chaque expression, ressort évidemment ce qu'on n'a pas à l'opéra, et ça, c'est la grande force d'un DVD. Et donc là, vraiment, c'est très fort. En revanche, la partie chorégraphique qui ne m'avait pas convaincue continue à ne pas me convaincre. Mais
oui,
ça, c'est une autre question.
Moi, elle me pose question.
De même que certains éléments musicaux et la direction d'orchestre.
Alors, c'est compliqué aussi. Alors, je me souviens de la première Yolanta, c'était une mise en scène de Peter Sellars, c'était au Festival d'Aix-en-Provence, il y a quelques années, qui lui avait fait suivre. C'était absolument magnifique. Et là, pour le coup, on était vraiment dans la nature. Moi, j'ai un souvenir stupéfait de cette production. Par contre, c'est Perséphone, ensuite, qu'il avait choisi lui, Peter Sellars, ça tombait un peu. Il y a comme une sorte de malédiction, en tout cas une grande complexité de faire quelque chose après Yolanta, qui est quand même une œuvre, comme vous le disiez, extrêmement tendue. Je pense que le choix des chorégraphes, quand même, explique beaucoup de la moins bonne qualité, on va dire, de la seconde partie que vous avez ressenti, Lucille Comeau, aussi.
Oui, en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'autant la transition, qui était le gage, la gageure du spectacle, est parfaitement tenue et extrêmement fluide, autant à l'intérieur du ballet, moi, je ne comprends pas ce qui se passe, vraiment. Alors déjà, il y a trois chorégraphes qui font des choses extrêmement différentes. Il y en a un qui prend en charge uniquement la fête d'anniversaire, qui est assez classique, moi, qui m'intéresse pas beaucoup. Il y a Sidi Larbi Cherkaoui qui réussit, moi je trouve, par moments à faire des choses très belles, mais ce sont des petits moments. Bon, par exemple, son pas de deux de la valse, et moi m'a ému vraiment presque aux larmes. Je trouve vraiment très très beau. Et puis alors le troisième, je n'ai plus
Edouard Locke.
Oui, alors je trouve ça catastrophique. Enfin, là, moi, ça me pose vraiment des gros problèmes. D'autant plus que ce sont les mêmes danseurs avec les mêmes costumes. Il y a aussi des effets de décor complètement contrastés avec de la vidéo qui arrive à un moment donné. Je pense pense que c'est de la vidéo de forêt projetée sur le sol et sur le fond de scène. Je ne comprends pas à quoi ça sert de faire venir ça à ce moment-là. Enfin, c'est très bizarre parce que la partie chorégraphiée paraît très très séquencée. On perd totalement l'élan donné par la transition. J'avoue, j'ai une forme d'incompréhension devant ce choix-là.
Emmanuel Dupuis.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, effectivement, bon, le principe de faire appel à trois chorégraphes différents, bon, ça pose question. Parce que d'autant que.
Trois différents. Dans des expressions chorégraphiques très différentes.
Enfin, et surtout Edouard Locke, il y a vraiment un langage personnel très à part. Avec
une gestique très particulière.
Extrêmement saccadée et qui est en totale opposition, pour le coup, avec la chorégraphie de Sidel Arbi Charkaoui, qui lui.
Oui, tout en déroulé.
Tout en courbe, tout en sensualité. Bon, mais en même temps, moi, je trouve que justement, il y a une science des enchaînements qui fait que ça passe et que tout ça semble s'inscrire dans une grande arche et dans le flux de la narration. Alors après, bon, Casse-Noisette, à la base, c'est un conte et ça reste un conte finalement, un conte initiatique.
Un dernier mot, Emmanuel Dupuis, sur la question de la chorégraphie.
D'abord, peut-être pour souligner la qualité de Marion Barbeau.
Oui,
qui est vraiment sûr. Parce que Yolanta est complètement dominée par la prestation de Sonia Yoncheva, qui surtout à l'époque a vraiment une voix merveilleuse, enfin, et puis est dans ce rôle absolument idéal, et Marion Barbeau qui au début donc est un peu une figurante et puis qui peu à peu est investie chorégraphiquement est vraiment absolument formidable. Après, je suis de l'avis de Lucille, un peu de gymnastique rythmique avec Pita, un grand lyrisme très émouvant mais quand même pas aussi inventif qu'il peut l'être de temps en temps avec Charkaoui. Et moi, j'avoue que Edouard Locke, ce côté terriblement anguleux, irait dans un autre univers. Mais par rapport aux deux autres, moi, je trouve que la sauce ne prend pas tout à fait.
Pardon, je vous presse parce que le programme est encore riche. On n'a pas prononcé à nouveau le nom d'Alain Altinoglu, Lucille Gomeau.
Alors, moi, je le trouve assez convaincant. Hein, à nouveau, au DVD, je trouve que ça sonne bien, qu'il y a de la dynamique dans Casse-Noisette en particulier. Donc, je ne sais pas ce que vous entendez, vous, Emmanuel Giuliani. Moi, j'ai plutôt aimé. Hein, je trouve ça pas mal.
Emmanuel Giuliani.
Oui, moi, je trouve que quand même pour Yolanta, ça pourrait être tellement plus lyrique, tellement plus, avec tellement plus effusif, tellement une patte orchestrale plus riche, plus dense. Et Casse-Noisette, c'est bien, mais d'habitude, Casse-Noisette, c'est une musique tellement géniale, des trésors de mélodie, de timbre. On n'a pas ça.
Emmanuel Dupuis, pour finir.
Oui, ça pourrait être plus, comme vous le dites, Emmanuel. Mais ça l'est déjà quand même déjà beaucoup. C'est quand même déjà, il y a quand même beaucoup. Moi, j'entends beaucoup de couleurs, j'entends beaucoup de lyrisme quand même dans cette direction. Et puis un souffle, voilà, qui emporte tout ça. Et enfin, moi, bon, personnellement, je suis. Même si certains aspects, certains partis pris peuvent poser question, c'est quand même une proposition extrêmement cohérente et par laquelle on se laisse quand même porter.
Oui, j'adhère à plein. Yolanta Casse-Noisette est maintenant disponible en DVD chez Bel Air Classique. Un coup de cœur pour Emmanuel Giuliani, Mélancolia, un disque des Cris de Paris chez Harmonia Mundi, un petit extrait. Thank you. a-t-il quelque chose à ajouter après cet extrait, Madame Giuliani, bien sûr.
Oui, voilà, premier disque des Cris de Paris, un excellent ensemble.
Ah, c'est leur premier disque.
Premier disque chez Harmonia Mundi, non, absolument pas le premier.
J'ai des pirates,
non, ils ont déjà une très belle discographie, mais leur entrée chez Harmonia Mundi, avec donc ce programme composé d'œuvres italiennes et anglaises, toutes qui tournent autour des années 1600, autour de la mélancolie, la méditation, la réflexion sur la vanité humaine. Un disque merveilleusement enregistré, merveilleusement composé, avec une espèce de un peu comme les djinns de Victor Hugo. On commence de manière assez classique, charmante, avec l'anglais qui évoque tout de suite les nuits shakespeariennes, etc. Et puis ça se resserre, notamment avec des Gesualdo complètement géniaux et bizarroïdes comme est la musique de Gesualdo, où les voix des Cris de Paris, qui peuvent être tellement homogènes et merveilleuses là, deviennent un peu méchantes, sortent des timbres inattendus, voire volontairement un peu pointus par moment. Et puis après, on retourne au contraire à des œuvres où la méditation est, où la mélancolie est plus tranquille, plus calme, plus sereine. C'est un très 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 beau disque qui a été enregistré à l'abbaye de Sylvanès. Geoffroy Jourdain, le chef et fondateur des Cris de Paris, explique qu'ils répétaient la journée, ils enregistraient la nuit. Et c'est vrai que cette ambiance nocturne, avec le côté inquiétant et apaisant de la nuit, est totalement restituée. Donc à écouter en baissant les lumières le soir chez soi.
Et en montant le son.
Et en montant le son, et voilà.
Mélancolia.
Et on se laisse conduire, et c'est magnifique.
Mélancolia, c'est le titre de ce disque des Cris de Paris chez Harmonia Mundi.
France Culture, la dispute. Arne Laporte. Get the right.
Le dernier sujet de cette dispute musique avec un disque, celui que Daniil Trifonov vient de graver chez Deutsche Grammophon, consacré au concerto pour piano 2 et 4 de Rachmaninov. Il est né en 1991. Trifonov, c'est un de ces génies précoces du piano dont notre époque regorge, tant mieux pour nous, hein. Troisième prix du concours Chopin de Varsovie, premier prix du concours Arthur Rubinstein à Tel Aviv, premier prix du concert Tchaïkovski de Moscou, du concours. Depuis, il a beaucoup tourné dans le monde. Il a donc enregistré ce CD avec le chef québécois Yannick Nézet-Séguin, la tête de l'orchestre de Philadelphie. On écoute le début du premier mouvement du concerto numéro 2. S'arrêter. un instant dans ce concerto numéro de Rachmaninov où l'on entend Daniil Trifonov. Emmanuel Dupuis, pour commencer sur ce disque.
Eh bien, c'est tout simplement une rencontre au sommet entre deux des plus grands artistes d'aujourd'hui, deux artistes qui sont à peu près d'ailleurs de la même génération, c'est-à-dire Daniil Trifonov, qui est peut-être un petit peu plus jeune, et Yannick Nézet-Séguin. Et c'est une rencontre qui prend tout de suite la forme de l'évidence. Alors, l'évidence, elle tient aussi beaucoup à l'Orchestre de Philadelphie, qui est un des Big Five, c'est-à-dire un des cinq plus grands orchestres américains, un orchestre qui a un son brillant, lustré. C'est une machine symphonique absolument somptueuse et cette sonorité, cette ampleur symphonique, on l'aperçoit tout de suite dès l'introduction de ce concerto numéro 2. Et voilà, mais ça fourmille en même temps, ça fourmille de détails, de micro-informations musicales, mais ça n'est jamais sec, ça n'est jamais pointilliste. Il y a au contraire un très grand lyrisme. Voilà, donc un tapis sonore absolument somptueux qui crée les conditions d'un dialogue d'égal à égal avec le piano de Trifonov qui est lui aussi absolument somptueux. Il domine son sujet, mais de façon... ces deux concertos, les concertos de Rachmaninov en général, ça fait partie des œuvres techniquement les plus redoutables de tout le répertoire pianistique. Mais avec Trifonov, on ne sent jamais, mais pas un seul instant, l'effort. Tout chante, tout coule avec une liberté absolument époustouflante. Donc voilà, et puis on entend tout de suite aussi que le pianiste et le chef parlent la même langue. Ils se renvoient la balle. Il y a quelque chose de parfois de presque ludique dans leurs échanges. À certains moments, ils font de la musique de chambre tellement les nuances s'approchent du murmure. Enfin. Bon, au final, c'est tout simplement quelques-unes des versions des concertos numéro 2 et 4 de Rachmaninov qui comptent parmi les plus réussies de toute la discographie de tous les temps.
L'an prochain, Deutsche Grammophon nous annonce les concertos 1 et 3, ce sera pour l'automne 19. Alors, Lucille Como, comme moi, et contrairement à Emmanuel, vous avez eu Deutsche Grammophon dans son infinie bonté nous envoyer des fichiers audio à lire sur les ordinateurs pour écouter de la musique. Merci, Deutsche Grammophon. On peut quand même entendre. Qu'est-ce que vous avez entendu, Lucille Como?
J'ai quand même pris une bonne claque, je dois le dire, avec l'ouverture.
Alors imaginez sur disque.
De ce concerto numéro 2. Et en effet, peut-être encore plus que par la technique de Trifonov, j'étais vraiment très impressionnée par l'orchestre qu'on entendait là. Je trouve que c'est absolument magnifique. C'est peut-être encore plus impressionnant dans le concerto numéro 4, où la technique a un peu changé d'écriture, où il y a encore plus de jeux de questions-réponses entre l'orchestre et le piano, et où vraiment l'orchestre joue comme un instrument face au piano. C'est assez splendide. C'est intéressant aussi le choix d'avoir mis les partitas pour violon retranscrite, du coup une partita pour violon retranscrite pour piano au milieu, puisque Trifonov dit que lui, il veut ancrer Rachmaninov et notamment le premier concerto, enfin le concerto numéro 2, dans les codes classiques, dans sa structure classique, enfin du moins en amont du romantisme qui précède Rachmaninov. Et je trouve ça très intelligent, du coup, d'entendre ça juste derrière le concerto numéro 2, quand le concerto numéro 4, lui, regarde encore plus, on est dans les années 20, vers des musiques de jazz, on l'entend... Là, ça m'a vraiment frappé beaucoup dans le concerto numéro 4 ou de musique de film. C'est une manière de défaire un petit peu Rachmaninov de son héritage romantique absolu qui m'a intéressé dans le programme du disque, si on l'écoute du début à la fin.
Emmanuel Giuliani, enfin, regarde sur votre
disque. Oui, je vais ajouter aussi des louanges. On retrouve et chez Trifonov et chez Yannick Nézet-Séguin avec l'Orchestre de Philadelphie exactement ce qu'on a avec eux au concert, qu'ils soient ensemble ou séparément, à savoir, c'est d'une ampleur, d'une richesse, d'une plénitude, et jamais ce n'est trop fort. Et à la fois, parfois, c'est ténu, pianissimo, et jamais ce n'est languissant, gnangnan. Et ça, c'est absolument étonnant. Et puis, ce qu'ils ont aussi l'un comme l'autre, c'est qu'il y a ce grand lyrisme, ces grandes phrases. Dès le début, on l'a vu. On sent qu'une lame de fond vous emporte et ne vous lâchera plus. Et à la fois, il y a toujours une pulsation. C'est que les grands épanchements, derrière, on sent une charpente. Et ça, c'est absolument grisant, parce que on avance, et c'est très caractéristique aussi, comme vous l'avez dit, dit Lucille dans l'extrait de la transcription de Bach, parce qu'il y a ce côté aussi extrêmement pulsatile et qui avance chez Bach, et c'est étonnant. Et puis on entend ce son de Trifonov qui est quand même absolument unique. Il y a des moments où on se dit mais on est dans du Ravel, dans d'autres on est évidemment totalement dans Rachmaninov. Je me suis fait la réflexion, même si c'est évidemment pas la même musique, mais voilà la musique russe, et comme j'aurais aimé entendre Casse-Noisette diriger au début du deuxième concerto, c'est de la plénitude absolue. Non, c'est un très très beau disque, bientôt Noël, faut l'offrir.
Lucille, comment ?
Oui, c'est ça. En fait, on sent parfois Rachmaninov, et notamment ce concerto numéro 2, c'est une sorte de nappe très aquatique, et puis on rentre dedans parce que c'est facile à écouter, mais il n'y a pas de charpente. Là, en fait, on entend, et je pense que ça tient aussi à la manière dont les cordes résonnent et les pides du début, on sent la charpente sous cette espèce de grande nappe qui nous entraîne, et ça, réussir cet équilibre-là, c'est fort, quoi, vraiment très fort.
Alors, l'un est né le 5 mars, l'autre le 6 mars, mais à 16 ans d'écart, Emmanuel Dupuis. Il a 16 ans de plus, Yannick, qui est né des Seguins.
Mais il fait tellement Trifonov. Jeune.
Bah oui, voilà. Mais enfin,
il est né en 75 et Trifonov,
il est encore jeune.
En 91. Bah oui, certes, mais enfin, ils n'ont pas tout à fait le même âge. Un dernier mot sur ce disque.
Non, mais qu'ajouter de plus, je parlais d'évidence tout à l'heure, et effectivement, c'est du début à la fin. Alors, il faut préciser que le concerto numéro 2 a été enregistré en studio. Et le concerto numéro 4 c'est un live, donc enregistré en public, mais on ne perçoit pas de différence.
Non, je veux dire,
il y a un niveau de fini instrumental dans les deux œuvres absolument similaire. Et ce qui est quand même assez, comme le disait Emmanuel, effectivement, on les entend en disque comme on les entend en concert. Donc c'est la preuve qu'ils ne trichent pas.
Mais ça veut dire que le 1 et le 3 qui sortiront dans un an sont déjà enregistrés, ou qu'ils le feront dans le cours de l'année ?
Je l'ignore.
Vous êtes dans le secret.
Je l'ignore totalement.
Bon, à découvrir en tout cas. Il y a des concerts prévus, vous savez ?
Trifonov, cette année, l'année dernière, on l'a entendu dans son
très intéressant programme qu'ils avaient dû remettre
à venir.
Et à venir, ne sais pas. Il y a des concerts sûrement quelque part, beaucoup, mais à Paris,
pas dans les médias.
Cherchez. En
mais
tout
c'est
cas,
c'est vrai qu'il faut l'entendre en vrai, comme on dit, parce qu'il tire du piano des sons incroyables.
Bon, faites-vous offrir, en attendant de l'entendre peut-être en vrai, ce disque Destination Rachmaninov, concerto pour piano 2 et 4, chez Deutsche Grammophon. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute. Tessa Radion nous a rejoint comme chaque soir pour nous rappeler dans un premier temps la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse. Sarah.
La question était: quel est le thème de cette édition 2018 du Festival des Utopiales ?
Et la réponse était:
le corps.
À gagner ce soir, des exemplaires de la revue Papier, la revue de France Culture. C'est le numéro 26, elle porte sur les révolutions de l'intelligence, elle est coéditée par Radio France et Exil. Quelle est la question ?
Qui a créé l'expression intelligence artificielle ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. En train de chercher quand même que Daniil Trifonov est en ce moment, cette semaine en tout cas, donne plein de concerts dans toute l'Italie, puis après ce sera la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, la Chine, enfin bon, peut-être qu'il passera un jour par Paris. Il me reste quand même le temps de vous dire que pour trouver toutes les informations concernant notre émission, vous la trouvez sur franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions ou vous abonner à son podcast. On se retrouve demain à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques. Nous serons en compagnie de Danaël Pijat, de Mathilde Villeneuve et de Florian Guettet. À notre affiche, l'exposition Miro au Grand Palais. On Air, carte blanche à Thomas Saraceno, au Palais de Tokyo. Le petit salon de Lucille Comeau qui portera sur...
les friches.
Les friches artistiques. Il y aura un coup de cœur signé Florian Guettet pour David Baloula, exposition chez Franck Elbaz.